journal d'Haïti et des Amériques.
Merci Anne Mignard, il est 9h10 à Port-au-Prince. La confusion et l'inquiétude encore un peu plus en Haïti. Ariel Henry, le Premier ministre, se sépare de son ministre de la Justice. La crise politique décryptée par notre confrère du Nouvelliste, Franz Duval. Je vous emmène aussi aujourd'hui au Salvador, où l'on a manifesté hier contre le président Bukele et ses tentations autoritaires. Je vous fais découvrir aussi l'île d'Anticosti au large du Québec, de Québec au Canada. Le pays voudrait bien voir cette île inscrite au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Et puis, comme chaque jour, des nouvelles de l'Outre-mer, c'est avec vous. Benoît Ferrand, des annonces attendues en Martinique au sujet des restrictions sanitaires.
Oui, pas de levée du confinement, mais des allègements à partir de lundi prochain. C'est ce que devrait annoncer cet après-midi le préfet de la Martinique. Allègement déjà annoncé hier par son collègue de la Guadeloupe.
Et on en parle dans 15 minutes. Benoît, bienvenue à tous.
RFI à Port-au-Prince. 89.3 FM.
Un peu plus de deux mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, les têtes tombent en Haïti après le commissaire du gouvernement qui voulait l'inculper. Le Premier ministre Ariel Henry soupçonné d'avoir eu des échanges téléphoniques avec l'un des principaux suspects du meurtre. Ariel Henry a limogé hier son ministre de la Justice. Avant d'en parler avec notre confrère de la presse haïtienne, les précisions d'Amélie Baron à Port-au-Prince.
Comme un juge a été chargé d'enquêter sur le meurtre du président Jovenel Moïse, le commissaire du gouvernement, qui est l'équivalent du procureur, n'avait légalement pas le pouvoir de formuler une quelconque demande sur le dossier et c'est sur ce motif qu'Ariel Henry l'a donc limogé mardi après-midi. Sans fournir de raison, mais dans cette même dynamique qui a mis en lumière les profondes divisions au sein de son gouvernement, le Premier ministre a changé mercredi son ministre de la Justice et c'est l'actuel ministre de l'Intérieur, Litz Kittel, qui reçoit la gestion par intérim de ce portefeuille. Ariel Henry ne s'est toujours pas expliqué sur les présumées conversations téléphoniques qu'il aurait eues avec l'un des suspects dans le meurtre de Jovenel Moïse, mais il a néanmoins reçu mercredi l'appui de la communauté internationale. Les diplomates étrangers en poste en Haïti l'ont rencontré à sa résidence officielle pour une réunion de travail et dans la soirée, le Core Group qui rassemble l'ONU, l'OEA et les principales ambassades a publié un communiqué qui encourage les efforts d'Ariel Henry, des acteurs politiques et de la société civile pour trouver un accord consensuel. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et toute cette actualité haïtienne en caricature, c'est à la une du Nouvelliste. On est en ligne avec son rédacteur en chef, Franz Duval. Bonjour.
Bonjour, Michael.
Cette caricature, donc, qui représente une file de personnalités politiques qui se plantent chacun un couteau dans le dos. Franz, qu'est-ce que vous avez voulu dire?
En réalité, il y a une bataille âpre pour vraiment prendre le pouvoir et plus de deux mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Monsieur Moïse, en partant, a laissé un premier ministre. Monsieur Ariel Henry qui a pris fonction, mais Monsieur Henry n'a pas de soutien. Il avait été soutenu au départ par ceux qui étaient proches de Jovenel Moïse, sauf qu'entre-temps, il a eu un accord avec des partis politiques, parmi lesquels des partis politiques qui étaient en opposition à Jovenel Moïse, et ces partis réclament un reformatage du gouvernement. Certains ministres ont été visés clairement, parmi lesquels le ministre de la Justice. Celui-ci a déclenché un mouvement contre le Premier ministre. Il y a eu le commissaire du gouvernement qui a essayé de mettre le Premier ministre en difficulté. Le Premier ministre l'a révoqué. Le Premier ministre a aussi révoqué le ministre de la Justice. Le Premier ministre a aussi révoqué le secrétaire général du Conseil des ministres qui était lui aussi en rébellion contre lui. Mais en réalité, chacun essaie de piquer la place de l'autre. Et c'est ça l'objet de la caricature du jour dans le Nouvelliste. On ne se fait pas de cadeaux, mais la vraie bataille, c'est pour avoir le pouvoir.
Et malgré tout, Ariel Henry a reçu encore hier le soutien de la communauté internationale et notamment du Core Group France.
Bon, il faut dire qu'Ariel Henry est devenu Premier ministre grâce à un communiqué, la première fois déjà, du Core Group. Et le communiqué publié hier soir par le Core Group va dans le même sens. Ils ont désigné Ariel Henry. Ils vont continuer à supporter Ariel Henry jusqu'à ce que Ariel Henry commette des fautes ou bien jusqu'à ce qu'on découvre qu'il est impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, comme on l'accuse de l'être. Il faut dire que la communauté internationale n'a pas beaucoup le choix. Il n'y a pas de provision légale pour avoir un autre pouvoir à la tête d'Haïti. Et les diplomates ont expliqué à plusieurs reprises qu'avoir un le Premier ministre sans président, c'était d'avoir un illégal au lieu d'avoir deux illégaux au pouvoir en Haïti.
Et tout ça, France, concrètement, quelles conséquences cela a sur la gestion du pays aujourd'hui?
Les conséquences sont plutôt graves pour la population parce que bien avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, le pays n'était plus dirigé ni gouverné. On vivait au jour le jour. Et malheureusement, les problèmes se sont accumulés dès ces 6 derniers mois. Aujourd'hui, Port-au-Prince est une capitale où certains quartiers reçoivent de l'électricité une fois chacun jour. Aujourd'hui, Port-au-Prince est une capitale où, de temps à autre, on doit passer des heures dans les stations d'essence pour essayer d'avoir quelques gouttes de produits pétroliers. Aujourd'hui, l'insécurité continue de battre son plein. Il y a encore des kidnappings. Il y a souvent, hier encore, des quartiers qui étaient inaccessibles, car bloqués par des gangs. Mais la population est en train de subir tout ça pendant que le gouvernement n'est pas en mesure de réagir. Le gouvernement a lancé la rentrée des classes pour le 4 octobre. Il a été décalé d'un mois. Mais jusqu'à aujourd'hui, les mesures d'accompagnement pour les plus fragiles de la population ne sont toujours pas mises en place. Il faut dire que ce gouvernement est empêtré dans ses batailles politiques, mais aussi limité par le manque de moyens.
Vous évoquez la rentrée des classes, France, le 4 octobre, dans le sud, le département le plus touché par le séisme du 14 août dernier. Et d'ailleurs, on apprend que la réponse humanitaire apportée aux sinistrés dans ce département du sud, seule une personne sur 10 a déjà reçu l'aide. Seulement une personne sur 10.
Et il faut dire que des trois départements, le département du Sud est celui qui est le mieux servi. Malgré tout, seulement 10% des victimes ont pu être secourues. Dans les deux autres départements qui sont encore plus inaccessibles, la situation est sans doute pire. Et là, on parle des chiffres officiels de la protection civile haïtienne. Malheureusement, le gouvernement n'a pas les moyens, la protection civile n'a pas les moyens, l'aide internationale se déploie lentement, mais surtout, il y a beaucoup de zones qui ont été frappées par le séisme, qui sont très inaccessible. Il n'y a pas de route, il y a eu beaucoup d'éboulements dans ces zones montagneuses et pour le moment, il y a des difficultés pour les atteindre, d'autant plus que le projecteur est en train de sortir sur le séisme pour se braquer totalement sur la crise politique en Haïti.
Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, avec nous, merci. Il est 9h17 à Port-au-Prince, 2h de moins à San Salvador.
Radio France Internationale, las voces del mundo.
Le Salvador, où l'on a manifesté hier. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Michael.
On les entend là, ces milliers de Salvadoriens crier leur opposition hier au président Nayib Bukele.
Oui, comme ici dans la capitale San Salvador, les manifestants ont pu profiter du 200e anniversaire de l'indépendance du pays et de la couronne espagnole pour exprimer leur désapprobation face à la concentration du pouvoir entre les mains de l'exécutif, explique La Prensa. Nous sommes contre les décisions autoritaires prises par le président et par son gouvernement, dit cette manifestante interrogée par le journal. Ces décisions, poursuit-elle, mettent en danger notre constitution. Le jeune président salvadorien jouit toujours d'une popularité exceptionnelle au sein de la population. 8 salvadoriens sur 10 lui sont favorables, notamment pour avoir mis fin à l'insécurité. Mais désormais, ses méthodes de gouvernance, la révocation des juges par exemple, la brutalité de l'armée et des forces de l'ordre et les révélation de l'existence de négociations entre Nayib Bukele et les principaux chefs de gangs armés. Ces méthodes de gouvernance donc suscitent des inquiétudes pour la démocratie dans notre petit pays d'Amérique centrale, rappelle La Prensa.
Nayib Bukele qui lui, Stéphanie, voit dans ces manifestations surtout la main de la communauté internationale.
Oui, tout à fait, c'est ce que rapporte aussi le quotidien El País. Ces gens ne se sont évidemment pas organisés librement, a estimé Nayib Bukele. Selon le président salvadorien, les manifestants sont protégés et même financés par certains membres de la communauté internationale.
Une rhétorique reprise, déjà, par exemple, aussi par le pouvoir au Nicaragua, autre pays d'Amérique centrale. Plus au sud, Stéphanie, la Colombie, sa capitale Bogota, investie depuis hier par 360 soldats.
Tout à fait, c'est la maire de Bogota, Claudia Lopez, qui avait demandé des renforts pour lutter contre l'augmentation des vols à main armée et des homicides, rappelle-elle. Spectador aujourd'hui. Une vague d'insécurité que les 16 000 policiers de cette ville de 8 millions d'habitants n'arrivaient plus à maîtriser. Selon le quotidien, les soldats ont été déployés dans 3 quartiers sensibles de la capitale. Bogota n'est pas seule, a déclaré hier soir le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, qui assure que l'armée va garantir la tranquillité et la sécurité des familles de la capitale.
Et pourtant, ce déploiement de soldats, Stéphanie, suscite des critiques aussi.
Absolument, beaucoup de Colombiens ont encore en tête les exactions commises par l'armée que le président colombien avait déployées au printemps dans plusieurs villes pour répondre à un vaste mouvement de contestation. Dans les colonnes d'El Universal, l'un des conseillers municipaux de Bogota dénonce d'ailleurs aujourd'hui la militarisation de la capitale. Selon Diego Cancino, l'intervention des soldats à Bogota risque d'approfondir les violences.
RFI, les voix du monde.
3 jours après la défaite inattendue des péronistes au pouvoir en Argentine lors des élections primaires pour les législatives qui se tiendront en novembre prochain, les démissions s'enchaînent au sommet de l'État argentin. Le président Fernandez voit ainsi partir plusieurs de ses ministres. Les explications avec Théo Conscience.
En tout, 5 ministres, dont ceux de l'Intérieur et de la Justice ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires, ont présenté leur démission au président argentin Alberto Fernandez ce mercredi. Tous sont des fidèles de la vice-présidente Cristina Kirchner, qui, selon les médias argentins, pousse le président à remanier son cabinet depuis le cinglant revers électoral essuyé par la majorité péroniste aux primaires des élections législatives. Dimanche, les candidats du gouvernement ont été battus dans 17 des 24 provinces argentines, dont leur fief, la province de Buenos Aires. Le soir du scrutin, le président avait assumé la responsabilité de la défaite, reconnaissant des erreurs dont il a promis de tirer les enseignements. En Argentine, les primaires concernent tous les partis politiques et le vote y est obligatoire. Elles constituent donc un baromètre grandeur nature avant les élections. Fragilisé par son propre camp, Alberto Fernandez n'avait hier soir pas accepté la démission de ses ministres, en accord avec la volonté qu'il avait affichée jusque-là de conserver son cabinet au moins jusqu'aux élections législatives prévues mi-novembre. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et le pouvoir canadien, lui, connaîtra-t-il la même surprise électorale à 4 jours de législatives anticipées? Stéphanie, le pays retient son souffle.
Oui, parce que les libéraux de Justin Trudeau et les conservateurs se trouvent dans un mouchoir de poche, souligne le Globe and Mail, et chacun tente de tirer son épingle du jeu.
Et dans cette course serrée, la région du Grand Toronto compte cette année quelques 800 bureaux de vote de moins qu'en 2019.
Si les raisons pour leur élimination sont multiples, écrit le journal Le Devoir, une chose est claire, le Grand Toronto sera lundi prochain le théâtre de lutte cruciale et le changement des lieux de vote pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.
Stéphanie Schuller, pour la presse, on aura le temps évidemment d'en reparler de ces élections canadiennes. Avant, je vous propose d'aller faire un tour sur l'île d'Anticosti à l'entrée du golfe du Saint-Laurent au Québec, territoire dont la richesse se trouve dans les sols et que le Canada voudrait bien voir inscrit l'an prochain au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Le reportage de Pascal Guéricola.
Technicienne de la faune sur l'île d'Anticosti depuis 30 ans, Daniel Morin guide ce jour-là des touristes près d'une falaise où il découvre des fossiles vieux de 400 millions d'années.
Oh, wow! Oui, c'est pas beau!
Ça, c'est quoi?
Un brachiopode. Dans les mêmes groupes que ceux-là, là, mais je disais, il y avait vraiment beaucoup de sortes. Hey, il est superbe, complet. Hey, ça, c'est un beau trésor.
Sur l'île d'Anticosti, il suffit de se pencher pour découvrir les traces lointaines d'invertébrés et de végétaux bien avant l'arrivée des poissons.
Ici, on voit que c'est un fossile. Il y en a d'autres ici. Il y a des gastéropodes comme les colimaçons, les escargots. Ça, c'est des brachiopodes. Puis les petits ronds comme ça, ça fait penser un petit peu à l'allure des anémones. Pour qu'on voit bien la forme de ces animaux-là, il fallait que les animaux meurent et soient ensevelis dans moins de 24 heures. Autrement, juste le vent, le brassage faisait qu'ils se défaisaient tout en petits morceaux. Fait que c'est tout comme des paquets d'anneaux.
Les falaises et les affleurements rocheux des 550 km de côte de l'île témoignent de l'histoire du vivant sur 10 millions d'années. Il y a plus de 400 millions d'années. Une empreinte unique pour le professeur de géologie sédimentaire, André Desrochers, qui travaille sur Anticosti depuis des décennies.
Anticosti, à l'époque, était tout près de l'équateur, dans l'hémisphère sud. C'était une mer chaude, tropicale, où, comme aujourd'hui, on trouve une biodiversité marine très élevée. Anticosti se démarque. parce que ces archives, donc les strates qui racontent l'histoire là, de cette vie ancienne, est bien inscrite en Anticosti et bien enregistrée du nord au sud de l'île. C'est comme si on avait une falaise d'environ 1000 mètres de hauteur. Ce 1000 mètres de strates fossilifères représente 10 millions d'années.
Assise sur la plage dans le village de Port-Meunier, Cathy Gagnon contemple la mer qui se retire. C'est elle qui prépare la candidature d'Anticosti comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert. Vous l'avez vu, quand on marche à différents endroits, on voit les fossiles et on les voit, ils sont dans la roche, ils sont dans les strates, mais ils sont aussi sur le rif, donc sur la grande platière rocheuse qui se découvre à marée basse, qu'ici on est en train d'apercevoir. Donc, tous ces lieux-là regorgent de fossiles. À chaque moment, à chaque partie de l'île qu'on marche, on va voir des fossiles, mais ils sont différents. Donc, à partir du moment où ils sont différents, on se questionne, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce qu'on est au début de l'extinction? Est-ce qu'on est dans le début de la reprise de la vie? On sait que ça a pris 4 millions d'années avant que la vie recommence un petit peu et tout n'est pas revenu.
Retour avec Danielle Morin, elle qui partage la vie des 180 insulaires permanents d'Anticosti. Elle espère que l'île va retrouver un nouveau dynamisme en se classant sur la liste des sites de l'UNESCO.
Il faut que l'architecture soit mise en valeur, il faut qu'on gère notre milieu naturel comme il faut. Il y a comme un paquet de projets pour améliorer la manière dont on fait les choses. Fait que pour moi, ça, c'est très positif.
C'est en 2022 qu'on saura si Anticosti fera partie des sites naturels du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Et sur les rives du Saint-Laurent, il est 9h26.
Le journal de l'Outre-mer.
Pour terminer, comme chaque jour, c'est avec vous Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Pas de levée de confinement, mais des allègements à partir de lundi prochain. C'est en principe la nouvelle que devrait annoncer cet après-midi le préfet de la Martinique.
Stanislas Cazel, c'est son nom. En résumé, on devrait donc passer, comme d'ailleurs depuis hier en Guadeloupe, de strict à plus souple, avec par exemple la réouverture des commerces dits non essentiels. En revanche, les restaurants devraient continuer à garder porte close au moins jusqu'à la fin du mois. Alain Livory.
Une date à retenir, le 20 septembre. D'après nos informations, c'est le jour que le préfet aurait choisi pour assouplir le confinement. Parmi les mesures qui devraient être annoncées, il y a la règle des 1 km qui devrait être élargie à 10 km. Les plages devraient être de nouveau accessibles, plus facilement, toujours en mode dynamique. Les commerces non essentiels devraient pouvoir rouvrir. Quant au pass sanitaire pour le personnel, tout comme pour l'obligation vaccinale de certaines professions, il devrait s'appliquer, mais avec un délai. La Martinique aura son propre calendrier. Le couvre-feu, quant à lui, devrait être maintenu entre 19h et 5h du matin.
C'est également après la Guadeloupe, mais 29 ans après, que la Martinique a rejoint hier le réseau mondial des réserves de la biosphère, l'UNESCO, auprès de laquelle le dossier avait été déposé en mai 2020, a en effet ajouté 20 nouveaux sites, dont l'île des Antilles, à son réseau de zones spécialement protégées. Jean-Paul Joannel, vice-président de l'association Martinique Réserve de Biosphère, a confié sa satisfaction au micro de Christine Cupit.
Ce label nous permet de rentrer dans un grand réseau de coopération puisqu'il est mondial. Nous avons des possibilités maintenant de coopérer avec toutes ces réserves de biosphère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre des problématiques qui sont les nôtres sont partagées par ces pays. Je pense notamment au ce qu'on appelle le réseau Caraïbes, qui comprend aujourd'hui 14 réserves de biosphère. Et très souvent, ce sont des problématiques que nous on a. La population qui a construit ce dossier a évoqué ce qu'on appelle les menaces sur tous ces trésors et donc à évoquer évidemment les sargasses et puis la problématique du changement climatique. On a un changement de paradigme qui est complet, traditionnellement, pour des raisons historiques. Quand on cherche des solutions à nos problèmes, on regarde souvent vers l'Hexagone et l'Hexagone tout seul. Là, on va regarder vers le monde.
Bonne fin de journée, bon après-midi, Michael. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. À demain, en effet, avec toutes les équipes de La Première dans ce journal d'Haïti et des Amériques qui se referme, mais que vous pouvez bien évidemment retrouver sur notre application RFI Pure Radio et sur toutes les plateformes de podcast. C'était Claude Battista qui était aujourd'hui à la réalisation. Merci à lui. Très bonne journée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Carrefour de l'Europe.